Alain Baraton, bonjour mon cher
bonjour
Alain.
Bonjour bonjour Patricia, bonjour à tous.
À propos ce matin de fortune, quelle belle idée de nous parler de fortune à quelques jours de la nouvelle année.
Oui, mais attention, ne vous méprenez pas, je n'ai pas l'intention de vous parler argent ni même de vous souhaiter prospérité, bien que vous le méritiez, mais de vous parler de Robert Fortune, un botaniste britannique qui a, c'est amusant, fait fortune dans le commerce des plantes. Oui, je trouve été étonné par ces gens dont le nom est en harmonie avec leur fonction. Avec poivre, par exemple, Pierre Poivre se spécialise dans le commerce du poivre. Amusant. Autre exemple, fraisier ramène du Pérou le fraisier. Pourtant, le mot ne s'écrit pas de la même façon, mais je trouve ça amusant. Et l'idée de gagner beaucoup d'argent en faisant un commerce douteux
en s'appelant fortune.
Eh bien, je trouve ça amusant. Alors, Fortune, Robert Fortune, pour que vous sachiez tout ou presque sur lui, est un homme né en 1812 et il va très vite se passionner pour les plantes venues de loin. Après avoir œuvré dans plusieurs jardins anglais fort réputés, il embarque en 1842 pour l'Asie et s'intéresse de près au commerce du thé, un breuvage, je vous rappelle, obtenu à partir des feuilles du camélia de Chine. 3 ans plus tard, il va vendre de manière plus que douteuse 20 000 pieds de thé en Inde. En un mot, c'est presque lui qui va introduire le théier en Inde et il va ainsi de quoi gagner sa vie très confortablement pour le reste de sa vie.
Robert Fortune, donc en anglais, c'est donc lui qui a introduit en Europe pas mal de plantes.
Eh oui, des variétés d'azalée, des chrysanthèmes, des variétés de pivoine aussi. Et en 1846, l'objet de la chronique de ce matin, la plante vedette des fêtes de fin d'année, le kumquat, appelé aussi Fortunella, vous savez maintenant pourquoi. Fortunella, fortune. Enfin, je le dis pour ceux qui n'auraient pas suivi. Alors, contrairement à ce que beaucoup s'imaginent, le kumquat ou kumquat n'est pas un agrume nain, car il peut atteindre en Extrême-Orient, sa région d'origine, 4 mètres de hauteur, et il n'est pas non plus très frileux. Il supporte les températures jusqu'à moins 10 degrés, mais pendant peu de temps.
Bah des kumquats, moi j'en connais des petits arbres à Bois-le-Roi, près de Fontainebleau. Oui. Mais pourquoi n'en trouve-t-on pas davantage dans les jardins de ces kumquats?
Pour une raison, ma foi, fort simple. Si la plante résiste un certain temps au gel, elle a besoin de chaleur et de soleil pour fleurir, pour fructifier et pour se développer. Alors si on vous a offert cette année, il y a de fortes chances, un kumquat, enfin une forte chance, il s'en vend beaucoup. Vous, Eric, je ne sais pas si vous allez en recevoir un, mais il n'est pas exclu que quelqu'un qui nous écoute ait reçu déjà, il l'a devant lui en nous écoutant, un kumquat. Alors que faire pour le garder? Alors premièrement, placez-le dans une pièce fraîche, l'idéal étant 8 à 10 degrés. S'il fait chez vous, et je vous le souhaite, plus de 18 degrés, oubliez, vous ne pourrez jamais le conserver vivant.
Et comment est-ce qu'on taille le kumquat?
Alors déjà, contentez-vous simplement de supprimer les branches mortes et mal positionnées. Autre conseil, ne le rempotez qu'après 3 années de culture dans un pot à peine plus grand qu'avec comme engrais du bon terreau. Pulvérisez régulièrement le feuillage et maintenez en hiver la terre humide. Et c'est tout, et en faisant ce que je viens de dire, il ne vous sera pas utile de m'écrire dans quelques temps pour me dire « Je ne comprends pas, j'ai un kumquat qui est en train de perdre ses feuilles, les fruits tombent, que faire ?» Je viens de dire comment procéder pour le garder le plus longtemps possible.
Vous connaissez l'adage, répétez, il en restera toujours quelque chose.
Tout à fait.
Une autre version de cette maxime. Question des auditeurs et auditrices de France Inter. Pierre vous demande, existe-t-il une méthode pour accélérer la dégradation d'une souche gênante?
Non, je ne connais pas de méthode naturelle. Il se vendait autrefois des produits que l'on injectait dans le bois pour favoriser la décomposition de celui-ci, extrêmement polluant. Et extrêmement préjudiciable. Souvenez-vous également de tous ces propos sur les arbres qui communiquent entre eux, même morts grâce aux racines. Quand vous mettez du produit dans une souche, le produit va dans les racines communiquent à d'autres végétaux, les conséquences peuvent être dramatiques. Il paraîtrait également, pour accélérer et favoriser la décomposition, qu'il suffirait de percer le bois, par exemple d'un vieux chêne, et d'y mettre une gousse d'ail. Honnêtement, je n'y crois pas du tout, autant invoquer directement les esprits, ce sera peut-être plus rapide. Alors il faut prendre son mal en patience et se dire que finalement, une souche d'un chêne adulte dans une terre normale ne se décompose qu'en il faut compter un petit siècle, donc un peu de patience.
Catherine vous demande, est-il possible de plaquer une pelouse en hiver?
Ah, c'est possible. Par contre, est-il possible que la pelouse plaquée se développe? Non, ça c'est autre chose. La pelouse plaquée, bien sûr qu'elle aura l'apparence d'une pelouse, mais pour que les racines se développent, il faut que la plante sorte de sa dormance. Or, la dormance, c'est au printemps qu'elle sort de la dormance. Donc oui, on peut plaquer maintenant un gazon, mais c'est perdre du temps. C'est pratique si on veut faire joli. On le fait beaucoup dans les matchs de football, par exemple, ou sur les stades plutôt, pour donner une apparence verte à une aire de compétition. Mais pour le particulier, on ne plaque pas. Maintenant, on attend le printemps.
Et pour planter, il faut quand même un sol meuble. Or, ce sont des sols un peu durs en ce moment, non ?
Ah oui, le sol est dur. Et comme je me plais à le dire régulièrement, quand il gèle à l'extérieur, on ne fait rien dans le jardin. Ce qui est d'ailleurs très pratique pour le jardinier quand il n'a pas envie d'en faire beaucoup.
Question de Bénédicte. Combien de temps puis-je laisser un palmier sous son voile d'hivernage ?
Première question, de quel palmier s'agit-il ? Parce qu'on fantasme aussi beaucoup, là encore, sur le palmier. Quand on pense palmier, on pense pourtour méditerranéen, on pense Marrakech, on pense
Tunisie.
Eh oui, on pense vacances, pour faire simple. Mais vous avez des palmiers qui résistent au froid, qui résistent même à des moins 5, moins 10, sans aucun problème. Les voiles d'hivernage protègent du froid, c'est sûr, mais limitent la lumière. Or, vous le savez fort bien, le palmier conservant ses feuilles en hiver a besoin de pratiquer la photosynthèse. Donc on se contentera, un, de protéger le tronc et la caisse si la plante est en caisse, et on limitera au maximum la durée de présence d'un voile d'hivernage. Les plantes n'aiment que moyennement.
Question de Stéphanie. L'hiver est-elle une bonne saison pour piéger les taupes ?
Eh bien, je ne crois pas. Observez l'hiver. On a l'impression qu'il y a davantage de taupes en mouvement, car les taupinières sont plus nombreuses. La raison en est simple. Quand le froid arrive, eh bien, le ver de terre, qui a également une petite cervelle, se dit qu'en restant en surface, il va être piégé par la glace. Que fait le ver de terre ? Il s'enfonce dans les profondeurs de la terre. Que fait la taupe pour se nourrir de ver de terre ? Elle le suit et elle s'enfonce, elle aussi, davantage. Donc oui, il est possible en hiver de piéger les taupes, mais elles sont plus profondément installées.
On termine par un conseil, c'est une balade ou une lecture ?
C'est une invitation à découvrir les châteaux de la Loire, et c'est un livre. Le titre, Jardin des châteaux de la Loire, les deux auteurs, Barbara de Nicolas, qui connaît bien le sujet, les propriétaires du château du Lude, Hervé Lelin et le photographe, un superbe ouvrage publié aux éditions Ulmer, 32 €, où l'on voit, on découvre le château de la Bussière, de Chabrol, de Chambord, bien sûr, du Clos Lucé, Château-Guerre, etc. C'est un très beau livre, les photos sont magnifiques, les textes sont précis, c'est un joli cadeau à faire.
À demain, Alain Baraton, il est 7h51.